France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal. Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Un nouveau rapport de l'ONU sur le climat. Il sera difficile de maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Compte rendu de ce rapport avec Lise Verbeek dans un instant. Le président destitué de Catalogne prend la parole à Bruxelles. Carles Puig demande poursuivi pour rébellion, sédition, malversation. Pourrait demander, dit-on, l'asile en Belgique. Précision avec Pierre Benazé. Réaction en Catalogne avec Sébastien Berriot. Moscou dément toute ingérence dans la campagne présidentielle américaine. Hier, trois membres de l'équipe de campagne de Donald Trump à Washington ont été mis en accusation. Dossier suivi par Nadine Epstein, commentaire de notre invité, l'historien François Durper. L'Allemagne célèbre le 500e anniversaire de la réforme. La chancelière Merkel estime que le christianisme est l'un des fondements de la culture du travail en Allemagne. Elle va assister tout à l'heure à un office religieux à Wittenberg. Correspondance de Cyril Sauvageau. Et dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Jesberg.
De la naissance de la justice pénale internationale. De Nuremberg à Lemberg avec l'avocat Philippe Sands qui publie un livre Retour à Lemberg aux éditions Albin Michel. Nous irons aussi aux insuffisances de cette même justice pénale internationale aujourd'hui. Nous évoquons les espoirs déçus ces derniers temps, comprendre un peu ce qui est en train de se jouer. Il sera avec nous à partir de 12h55.
Et on commence donc par ce rapport alarmiste du responsable environnement des Nations Unies. Nous sommes à une semaine maintenant de l'ouverture de la COP23. L'écart est qualifié de catastrophique entre les promesses nationales de limitation des émissions de gaz à effet de serre et les réductions qu'il faudrait, selon l'ONU, opérer pour maintenir le réchauffement en dessous des 2 degrés. Vous venez de lire ce rapport pour nous, Lise Verbeek.
Oui, il est très clair. Les émissions de gaz à effet de serre en 2030 seront supérieures d'environ 30% de ce qui est requis pour limiter le réchauffement climatique. Si rien n'est fait dès maintenant, les températures moyennes auront progressé de 3 à 3,2 degrés d'ici la fin du siècle, entraînant tout un tas de dérèglements graves, canicules, inondations ou encore ouragans de catégorie 5. L'ONU pointe du doigt les États, signataires de la COP21, qui ont certes mis de la bonne volonté lors du lancement de la COP, mais qui ne font aujourd'hui pas assez d'efforts. Depuis 3 ans, les émissions de CO2 issues de la combustion d'énergies fossiles, charbon, pétrole ou encore gaz se sont stabilisés, notamment parce que la Chine, l'un des plus gros pollueurs de la planète, a moins recours au charbon et davantage au solaire. Mais cette stabilisation n'est pas suffisante. Il faudrait aller encore plus loin, selon l'ONU. D'autant plus que les émissions d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane, ne cessent d'augmenter. Gaz produit par l'agriculture, les changements d'utilisation des terres ou encore la déforestation. Le programme des Nations Unies pour l'environnement propose des solutions. Rénover les bâtiments, reboiser, mettre le paquet sur les énergies renouvelables, développer le transport économe. Mais l'ONU sait que sans volonté politique, rien ne pourra être fait. Elle appelle donc au dialogue l'année prochaine entre les signataires de la COP21 pour revoir à la hausse les contributions nationales. L'ONU qui essaie tout de même de rester optimiste, il est encore possible, selon elle, d'éviter la surchauffe généralisée.
Lise Verbeek, merci beaucoup. Et ce mois d'octobre 2017 en France se caractérise par, selon Météo France, une douceur remarquable et aussi par un déficit de pluviométrie, souvent proche des records dans le sud. Communiqué donc de Météo France intitulé « Octobre 2017, chaud et exceptionnellement sec ». Le président destitué de l'exécutif catalan, réfugié à Bruxelles, devait donner en tout cas une conférence de presse. Carles Puigdemont envisagerait même de demander l'asile politique. Hier, on le sait, le procureur général de l'État espagnol avait demandé qu'il soit poursuivi pour rébellion, pour sédition, malversation. On va tout de suite à Bruxelles retrouver Pierre Benazé. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Qu'est-ce qu'on attend de cette conférence de presse? Est-ce qu'elle a commencé d'ailleurs?
Elle n'a pas encore commencé, tout le monde est prêt, tout le monde attend. C'est pour l'instant l'expectative dans cette petite salle de conférence de presse du Press Club à Bruxelles. On attend de savoir si Carles Puigdemont va venir d'abord et surtout quand. Et de savoir s'il se considère désormais comme un dirigeant en exil. Et d'avoir aussi quelques mises au point sur les conditions un peu rocambolesques de son trajet vers la Belgique. Puisque on affirme qu'il a quitté Barcelone en voiture vers Marseille pour y prendre un avion. Son nouvel avocat belge affirme qu'il n'est pas rentré clandestinement dans le royaume. Rome, puisqu'il n'y a toujours pas d'inculpation ou de mandat d'arrêt à son encontre. Il reste que sa présence à Bruxelles n'a été confirmée qu'en début de nuit, hier. On l'avait jusque-là appris uniquement qu'il était, je cite, dans un endroit discret et sûr. Discret, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que le président destitué de la généralité était dans la bourgade flamande de Tilt, entre Bruges et Gand, pour rencontrer son nouvel avocat, maître Paul Beckhardt. Il n'était donc pas venu principalement, comme on le croyait, pour rencontrer ses camarades du mouvement séparatiste flamand. Carles Puigdemont, on l'espère, devrait nous dire s'il a rencontré ou non des représentants de la NVA, l'Alliance néo-flamande, dont fait partie Théo Franken, le secrétaire d'État chargé de l'asile et de la migration au sein du gouvernement fédéral belge, qui lui avait en quelque sorte fait un appel du pied en affirmant qu'une éventuelle demande d'asile serait étudiée, je cite, convenablement.
Ce matin, sur France Info, l'ambassadeur d'Espagne en France ironisait sur une éventuelle demande d'asile. Monsieur Puigdemont peut demander l'asile comme, dit-il, je peux demander le prix Goncourt. Et selon lui, l'asile n'est normalement pas possible entre l'Union européenne, car tous les pays de l'Union respectent, dit-il, la loi et les droits des citoyens. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur cette demande, Pierre Benazé?
En tout cas, on devrait savoir sous peu si Monsieur l'ambassadeur peut demander le Goncourt, parce que Carles Puigdemont semble en tout cas avoir pris les dispositions nécessaires. Son avocat, Paul Beckhardt, est en effet un spécialiste depuis des décennies des extraditions, du droit d'asile et du mandat d'arrêt européen. Il a en particulier réussi à éviter à deux Basques, Luis Romero et Raquel Garcia, l'extradition vers l'Espagne, alors qu'ils étaient soupçonnés de liens avec l'ETA. Et même si l'asile est extrêmement rare pour des ressortissants de l'Union européenne, il reste en théorie possible à condition que des craintes de persécution puissent être prouvées. En tout cas, Carles Puigdemont sait pouvoir compter sur la solidarité de ses camarades nationalistes en Flandre belge. Si les indépendantistes catalans sont plutôt classés à gauche, voire à l'extrême gauche, les séparatistes flamands, eux, sont plutôt à droite, voire extrême droite. Mais l'idéologie politique, même très marquée, ne semble pas être un facteur de division pour les tenants du régionalisme identitaire.
Pierre Benazé, merci beaucoup. En direct de Bruxelles, comment voit-on les choses depuis la Catalogne? On est en direct avec Sébastien Berriot. Bonjour.
Oui, bonjour.
Comment est perçu donc cet exil, peut-on dire, bruxellois du président destitué de l'exécutif catalan?
Eh bien, ce qui est sûr, c'est que l'escapade belge de Carles Puigdemont, comme l'appelle ce matin la presse catalane, a beaucoup surpris dans le camp indépendantiste. Personne ne s'attendait à ce départ précipité. Samedi après-midi, le président destitué était encore apparu détendu dans sa ville de Gérone, prenant même un bain de foule en compagnie de son épouse. Le journal El Mundo évoque ce matin la stupeur des collaborateurs de Carles Puigdemont lorsqu'ils ont appris ce mystérieux départ. Alors officiellement, personne ne s'aventure à critiquer la décision du leader catalan, même si en privé, certains indépendantistes laissent entendre que Puigdemont a en quelque sorte abandonné le navire et laissé le champ libre à Mariano Rajoy. Mais ce n'est pas forcément l'avis général. Les partis indépendantistes, évidemment, attendent la conférence de presse de 12h30 avant de se prononcer. Mais au sein du parti de Puigdemont, le PD4, on semble vouloir plutôt faire confiance au président destitué. Un responsable explique que l'escapade répond à une logique politique bien précise qui vise à internationaliser le problème catalan pour faire pression sur l'Espagne. Et puis beaucoup d'indépendantistes disent quand même comprendre le départ de Puigdemont en raison des menaces judiciaires très sérieuses qui pèsent sur sa personne, l'arrestation et la prison. Et c'est d'ailleurs sans doute pour cette raison que Carles Puigdemont n'a pas pris le risque de prendre l'avion hier à Barcelone, préférant franchir en voiture la frontière franco-espagnole avant d'aller à l'aéroport donc de Marseille.
Sébastien Berriot, merci. On passe à la situation maintenant aux États-Unis. Donald Trump est-il sérieusement menacé par les derniers développements de l'affaire des ingérences russes? Le procureur spécial Robert Mueller a mis en accusation hier trois membres de son équipe de campagne, dont son ancien directeur Paul Manafort et un conseiller ayant menti sur ses contacts avec Moscou. Ces premières poursuites pénales marquent en fait une accélération dans ces investigations. Est-ce que le soupçon fondamental de savoir si l'équipe de Trump s'est concertée avec Moscou pour influer sur le résultat du scrutin, est-ce que ce soupçon se trouve renforcé aujourd'hui, Nadine Epstein?
Eh bien, le procureur Mueller a inculpé Paul Manafort, homme d'affaires qui a dirigé la campagne de Trump entre juin et août 2016, et son associé Richard Gates. 7 chefs d'inculpation ont été retenus contre eux. Complot contre les États-Unis, blanchiment, fausses déclarations et non-déclaration de comptes détenus à l'étranger. Plus de 75 millions de dollars ont transité par des comptes offshore gérés par les deux hommes. Manafort aurait blanchi à lui seul 18 millions de dollars. Pour rappel, Paul Manafort avait démissionné avant l'élection américaine. Le businessman qui a longtemps conseillé l'ex-président ukrainien Viktor Yanukovych a renversé lui par la rue en 2014, s'était retiré après que les autorités ukrainiennes ont révélé qu'il avait reçu un paiement de 12,7 millions de dollars du dirigeant pro-russe. Dans un autre développement de l'enquête, un troisième ex-conseiller de Trump, George Papadopoulos, s'est mis en cause. Il a reconnu avoir menti à des agents du FBI. Cet homme, chargé des questions de politique étrangère au sein de l'équipe de campagne du candidat républicain, a rencontré à Londres un professeur étranger qui lui a assuré que Moscou détenait un dossier compromettant contre Hillary Clinton et contenant des milliers de courriels. Dans le même temps, à partir d'aujourd'hui, Google, Facebook et Twitter vont témoigner devant le Sénat américain et la Chambre des représentants qui soupçonnent les réseaux sociaux d'avoir servi de plateforme pour de la propagande russe. Des enquêtes parlementaires ont été ouvertes pour déterminer si les trois géants du net ont pu être utilisés pour influencer l'élection. Facebook a reconnu que 10 millions de personnes aux États-Unis avaient visionné des contenus sponsorisés par 500 comptes activés depuis la Russie et qui avaient servi à manipuler l'opinion, principalement en attisant les clivages idéologiques au sein de la société américaine.
Merci beaucoup Nadine Epstein. Avant de donner la parole à notre invité François Durper, justement un petit focus sur ces accusations contre Facebook, Twitter, Google qui va s'exprimer devant les commissions parlementaires qui enquêtent sur l'affaire. Quels ont été leurs rôles et quelle peut être leur responsabilité dans cette affaire, François-Pierre Noël?
Que ce soit Facebook, Twitter ou Google via YouTube, toutes les publications sur des comptes pro-russes lors de la campagne électorale américaine évoquaient des sujets d'actualité outre-Atlantique, l'immigration, le chômage ou les armes à feu. En septembre dernier, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a même présenté ses excuses pour avoir sous-estimé le rôle de son réseau social dans la campagne américaine. Des centaines de comptes de propagande auraient acheté des encarts publicitaires sur son réseau. Tous ces comptes seraient liés à l'Internet Research Agency. Alors, l'Internet Research Agency, je vous explique en quelques mots Antoine, c'est une agence de trolls qui n'a qu'un seul but, perturber un débat, une discussion sur les réseaux. Selon le Wall Street Journal, cette agence russe a publié 80 000 posts sur Facebook et touché près de 126 millions de personnes entre 2015 et 2017, si on compte tous les partages, les commentaires et les mentions j'aime, soit plus de la moitié du corps électoral américain. Aux États-Unis, il est interdit de faire financer les publicités politiques depuis l'étranger. Pour montrer leur bonne foi, les réseaux sociaux annoncent les uns après les autres plus de transparence. Il y a une semaine, Twitter a présenté la création d'un centre pour contrôler toutes les publicités publiées et les publicités politiques auront désormais une couleur spécifique, le violet. Même chose pour Facebook, avec la possibilité de connaître la provenance d'un contenu sponsorisé en cliquant dessus. Il sera testé en novembre au Canada pour arriver aux États-Unis juste après. Pour l'instant, Antoine, cette transparence des réseaux sociaux n'a pas encore été annoncée en Europe.
François-Pierre Noël, merci beaucoup. Retour donc au fond de l'affaire avec François Durper, historien, spécialiste des États-Unis. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que Donald Trump est menacé, selon vous, par cette affaire?
Il est menacé depuis le départ par cette affaire qui vient de connaître une escalade. Alors, dans les 31 pages d'explications qui concernent donc la mise en examen, l'inculpation de Paul Manafort notamment, il n'y a pas de lien direct établi entre ce qui est reproché à Paul Manafort et Donald Trump, et même la campagne de Donald Trump. Donc, pas de lien direct, ça veut dire que on pourrait penser que Donald Trump va s'en tirer. Mais il y a quand même quelque chose de plus inquiétant, c'est l'attitude du troisième homme, Papadopoulos. Puisque c'est la première fois dans cette enquête que l'un des protagonistes dit « Eh bien moi, je vais passer un deal. » Plea deal, on dit en anglais. « Je vais passer un deal en échange de mon immunité. » Vous avez vu que les mises en examen sont très très lourdes. Complot contre les États-Unis. Là, c'est une stratégie de Robert Mueller, le procureur. Inculpation très très lourde pour faire craquer les acteurs pour qu'ils se disent « j'échange mon immunité contre la parole ». Et ça marche sur Papadopoulos qui se met à table et qui commence à parler et à évoquer notamment le fait qu'il va en Russie, qu'il rencontre des agents russes pour avoir des renseignements contre Hillary Clinton. On imagine bien que Papadopoulos ne le garde pas pour lui, tous ces renseignements, c'est pas pour sa campagne, à Papadopoulos. Vous avez remarqué qu'il est pas président des États-Unis. Donc, à qui il les donne? Ben, il les donne à la campagne, il la donne à Donald Trump. Donc, c'est vrai que, possiblement, il y a quand même menace. C'est quand même une affaire qui gangrène le mandat, le début de mandat de Donald Trump, même si, pour l'instant, aucun lien direct entre les deux.
Votre intime conviction, si je puis dire, est-ce que vous pensez que Donald Trump était au courant de cette tentative de manipulation de l'opinion? Est-ce que c'est, en tout cas, c'est réaliste comme...
Alors, de deux choses l'une, soit Donald Trump est complice, soit Donald Trump est incompétent, parce que lorsqu'il nomme Paul Manafort est déjà sous écoute du FBI depuis 2014. Il est notamment très proche, ça a été dit, de l'ancien président ukrainien pro-russe et même considéré aujourd'hui par le FBI comme un agent non déclaré du gouvernement ukrainien qui devient le chef de la campagne de Donald Trump. C'est le même, il est en même temps l'homme des Russes et en même temps l'homme de celui qui va devenir le président des États-Unis. Et c'est ce que Robert Mueller essaye de prouver. Collusion, collusion ou pas collusion, telle est la question. Vous avez remarqué, c'est le mot qui est dans le tweet de Donald Trump. Aucune collusion n'est pour l'instant prouvée.
Dans quelques jours, on fêtera les 1 an. Enfin, fêtera. On marquera les 1 an de la présidence. Voilà.
Certains le fêteront.
Quel bilan vous faites, vous, François Durpaire?
Pour le moment, sur le plan de, faut regarder le bilan par le Congrès, c'est-à-dire par les lois que le président a réussi à faire passer au Congrès. Là, le budget a été voté. Il y a des choses positives de son côté. Mais, évidemment, le programme de Donald Trump, il avait prévu d'aller plus vite, plus loin, notamment son échec principal, c'est le non-abandon d'Obamacare. Hein, ça, c'est très symbolique, le fait que l'assurance santé Obama, eh bien, c'est la victoire posthume politiquement de Barack Obama. Mais pour l'instant, ça tient dans son électorat.
Il tient la route aussi, parce qu'on avait beaucoup dit, dans un an, il ne sera plus là.
Il n'a pas trahi son électorat. Ça, c'est important. Même si ça s'effrite quand même quand on regarde un petit peu l'opinion, y compris chez ses soutiens, il y a quand même des marqueurs très très forts. Encore récemment, vous avez vu avec l'ouverture des dossiers Kennedy, il trouve toujours le moyen d'avoir un marqueur populiste, sans que ce mot soit nécessairement négatif, d'avoir un marqueur du côté de la population américaine en disant « moi je suis du côté des Américains, je crois même au complot comme la majorité des Américains ». Donc pour l'instant, ça tient. Maintenant, il y a des échéances politiques qui vont arriver et qui vont là véritablement dire la vérité sur la question et notamment les mid-termes.
Merci beaucoup François Durpaire d'être venu dans cette édition.
Midi 48 sur France Culture. Ce mardi 31 octobre est exceptionnellement férié dans toute l'Allemagne. Le pays célèbre le 500e anniversaire de la réforme.
Et oui, le 31 octobre 1517, Martin Luther placardait ses fameuses 95 thèses qui bouleversèrent la conception du salut. Le croyant ne gagnerait sa place au paradis que par la grâce de Dieu et non pas par le commerce alors répandu des indulgences par lesquelles le pécheur pouvait acheter son pardon. La chancelière Merkel soulignait récemment que la réforme était à l'origine en Allemagne de nombreux changements sociétés et elle estimait que le christianisme était finalement l'un des fondements de la culture du travail en Allemagne. Cet après-midi, elle va assister à un office religieux à Wittenberg avant de prononcer un discours. Cyril Sauvageau, bonjour, c'est une journée
bonjour.
Qui est finalement très marquée par ce souvenir en Allemagne aujourd'hui.
Oui, et les commémorations ont lieu dans un lieu hautement symbolique, l'église du château de Wittenberg, à l'endroit même où, selon la légende, le moine Luther aurait donc placardé ses 95 thèses en signe de protestation contre l'église romaine. Après l'office religieux, Angela Merkel prendra la parole à Wittenberg en présence de nombreuses personnalités, le président fédéral Frank-Walter Steinmeier, le nouveau président du Bundestag Wolfgang Schäuble, des membres du gouvernement et des autorités régionales, ainsi que des hauts représentants religieux. Une cérémonie de clôture pour marquer la fin de ce jubilé des 500 ans, un anniversaire qui a rythmé l'année en Allemagne. Luther était partout, avec des expositions, des rassemblements œcuméniques, un opéra et même une figurine Playmobil vendue à 1 million d'exemplaires et donc tout un calendrier de commémoration dans cette ville de Wittenberg en ex-Allemagne de l'Est où Luther a longtemps vécu, enseigné et prêché.
Alors, la chancelière soulignait, je le disais, cette influence encore forte qu'avait gardée le luthérianisme en Allemagne. Comment ça se manifeste dans différents aspects de la société et de la vie là-bas en Allemagne ?
Eh bien, Angela Merkel elle-même symbolise en quelque sorte cet héritage en tant que fille de pasteur luthérien. Beaucoup d'ailleurs ont voulu voir l'empreinte de la morale protestante dans sa décision d'accueillir les réfugiés en 2015. De manière plus générale, le protestantisme imprègne toute la vie publique en Allemagne, un pays où le chancelier prête serment sur la Bible, où les politiques ne craignent pas d'afficher leurs convictions religieuses publiquement, un pays enfin où les églises protestantes et catholiques, financées par l'impôt, jouent un rôle social et caritatif majeur dans la société. Pourtant, l'Allemagne n'échappe pas au recul général du christianisme en Europe. Depuis les années 60, les églises ont perdu beaucoup de fidèles et le protestantisme est encore plus touché par cette désaffection. Selon une étude pour l'année 2016, 26% des Allemands se disent protestants. Au pays de Luther, ils sont moins nombreux que les catholiques qui représentent 28% de la population.
Merci beaucoup en direct de Berlin. Une controverse agite aussi bien au-delà de la communauté protestante en Allemagne autour de la question de savoir s'il faut retirer un bas-relief antisémite de l'église de Wittenberg où prêchait précisément Martin Luther. Martin Luther dont l'antisémitisme a été abondamment documenté par les historiens. Il exhorta à l'époque à brûler les synagogues et rédigea le libelle des juifs et de leurs mensonges. Le procès d'Abdelkader Merah après le réquisitoire de l'avocat général qui a requis la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans, la parole est aujourd'hui à la Défense. Avec ce matin les avocats de Feta Malki, celui qu'on appelle l'oublié du procès qui avait fourni une arme et un gilet pare-balles à Mohamed Merah. L'avocat général a requis 20 ans de réclusion contre lui et ce matin ses avocats s'efforcent de démontrer qu'il ne connaissait pas l'intention du tueur. Florence Turne.
Avant d'être l'avocat de Feta Malki, le Toulousain Christian Etelin fut celui de Mohamed Merah et de sa jeunesse délinquante. Et c'est à ses confrères de la partie civile qu'il s'adresse d'abord. Comment faire le deuil? C'est impossible. En défendant Malki, je me sens totalement solidaire des familles. Nous partageons les mêmes valeurs. Nous sommes, dit-il, avec vous. Mais l'enjeu de ce procès dépasse largement Feta Malki et Abdelkader Merah. Il s'agit de nous interroger sur nous-mêmes, poursuit l'avocat. En les offrant à la plus forte répression possible, va-t-on résoudre le problème qui nous est posé? Nous ne pourrons pas faire l'économie de certaines questions, la faillite d'un système éducationnel, la faillite de l'intégration. Christian Etelin interroge et questionne, questionnement philosophique et sociétal à la fois, face à un défi qu'il sous-entend impossible, rendre intelligible ce qui paraît incompréhensible, le retour à l'obscurantisme. Dans son box, Feta Malki écoute, attentif, le dos voûté, le menton appuyé sur sa main. En 10 minutes, le parquet général lui a signifié qu'il devait effectuer 20 ans de réclusion, reprend son avocat, cette fois sur le terrain du droit. Feta Malki serait terroriste par potentialité. J'ai écouté cela avec effroi. Il aurait dû percevoir le potentiel djihadiste de Mohamed Merah alors que la DCRI n'a rien vu. Aucun élément de la procédure ne permet de penser, soutient la défense, que Mohamed Merah allait se comporter comme il l'a fait. Feta Malki mérite d'être jugé, c'est évident, mais il ne mérite pas d'être jugé par la société comme un terroriste, conclut Christian Etelin en se tournant vers la cour. Il ne mérite pas d'être l'exemple d'une répression rendue au nom de la raison d'État, la justice doit rester un pouvoir indépendant. L'avocat se fait une dernière fois philosophe. Il faut, dit-il, agir avec le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté.
Merci Florence Turme.
Midi 53, la suite et fin de votre journal Antoine Mercier. La libération de la parole autour de la question du harcèlement sexuel. Un débat vient de se dérouler aux communes après les révélations dans les médias britanniques ce week-end de comportements déplacés de la part de plusieurs élus.
Et oui, le président de la Chambre basse du Parlement britannique prône la tolérance zéro. Il évoque des allégations troublantes sur l'existence, ce sont ces termes, d'une culture de harcèlement sexuel à Westminster. Les médias font effectivement état d'une liste de 13 députés qui seraient accusés donc de harcèlement et qui circuleraient actuellement au Parlement, Marina Daras.
Oui, plusieurs journaux ce matin parlaient même d'un scandale qui s'abat sur Westminster. Au fur et à mesure que les langues se délient, on se rend compte de l'ampleur du problème. Le dernier à avoir été mis en cause n'est autre que le ministre du Commerce international, Marc Garnier, qui a avoué avoir demandé à sa secrétaire de lui acheter des accessoires érotiques. Il lui avait même attribué un surnom à caractère sexuel faisant référence à sa poitrine. Theresa May a déjà réagi plusieurs fois sur ces révélations, déclarant que tout comportement de harcèlement à caractère sexuel était totalement inacceptable. Une enquête a bien évidemment été ouverte pour déterminer si les ministres et parlementaires qui avaient été mis en cause avaient réellement violé le code de conduite ministérielle. Mais d'après plusieurs témoignages, beaucoup de ces plaintes restent souvent sans suite. Les parlementaires demandent donc à Theresa May d'être plus ferme. Un groupe de députés conservateurs et travaillistes, avec Jeremy Corbyn en tête, réclame plus d'action pour mettre fin à cette culture du harcèlement sexuel qui semble régner à Westminster.
Marina Daras en direct de Londres, merci beaucoup. Peut-être un petit mot de l'invité de la dernière partie de la Grande Table qu'on va entendre dans une toute petite minute. Philippe Zanz, bonjour. Vous êtes juriste, avocat, et puis vous êtes spécialisé, on le sait, dans la défense des droits de l'homme et de la femme. Et vous êtes donc franco-britannique.
Et je suis londonien.
Et vous êtes londonien. Non, alors, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier à Londres, ou c'est comme partout ?
On n'est pas surpris. On sait que c'est une histoire universelle. Mais là, en fait, la liste que vous avez mentionnée de 13 noms, nous, on écoute une liste de 36 noms, mais de tous les partis politiques, pas que les conservateurs. Et aussi, il y a d'autres histoires qui sautent. Il y a surtout l'histoire d'un grand acteur américain qui est vraiment beaucoup aimé en Angleterre, Kevin Spacey, qui prend le moment pour annoncer non seulement une expression de regret pour ce qui s'est peut-être passé, mais qu'il était homosexuel au même moment. Et là, ça a déclenché tout un autre débat sur qui, quand, où, comment, et c'est à la page une partout en Angleterre.
Faut-il que la justice s'empare de toutes ces affaires, selon vous ?
Absolument, absolument.
Pour quelle raison ?
Parce que le plus important, c'est qu'il y a des procédures pour lesquelles, quand quelque chose se passe, surtout les gens moins âgés, les gens jeunes, que ce soit en Parlement, dans le monde de droit, dans les universités, un peu partout, ils savent où aller. Ça n'existe pas en ce moment.
On vous retrouve dans 30 secondes. Le temps de vous donner, Philippe Sands, la météo en France. Donc, temps ensoleillé sur la plupart des régions. Des maximales qui vont varier de 9 à 15 degrés sur le Mighty Nord. 14 à 18 au sud. Ça va aller jusqu'à 18 à 21 degrés en Provence et en Corse. Édition réalisée avec Emmanuel Faucillon. Prochain journal 18h avec Antoine Marette.